Ce soir, je vous invite à découvrir une nouvelle affirmation que Jésus a pu avoir. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. C'est une parabole. Jean, chapitre 10. Alors, nous avions déjà vu que Jésus avait dit « Je suis le pain de vie ». Ah, d'ailleurs, je m'assure que j'ai oublié de vous mettre le livre et le chapitre. Donc, c'est parabole de la porte et du berger. Jean, chapitre 10. Alors, nous avons déjà vu que Jésus se déclarait être le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Il a déclaré être également être la lumière du monde. Et voilà que ce soir, il a une nouvelle déclaration à faire connaître au monde. Je suis la porte. Et puis un peu plus loin, il va dire « Je suis le berger, le bon berger ». Alors, on va prendre le temps ce soir de lire du verset 1 au verset 16, mais c'est vrai que on va faire une première lecture des 6 premiers versets. Parce qu'en fait, Jésus commence une parabole. Donc, cette parabole, elle se trouve entre le verset 1 et le verset 6. Et puis, on va s'apercevoir que les gens ne comprenaient pas. Et après, la suite du texte, Jésus prend le temps de donner les clés de cette parabole. Alors, on va juste lire pour l'instant les 6 premiers versets. On fera une petite pause pour se projeter il y a 2000 ans pour comprendre un peu la scène. Il y a une photo pour nous expliquer comment ça pouvait s'articuler. Et après, on va refaire la lecture pour que on comprenne bien le contexte de cette histoire. Jean chapitre 10, verset 1er. Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, sous-entendu il y en a d'autres, hein, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parle. Ça, c'est quand même dommage quand on explique quelque chose, quand on parle et que les gens qui nous écoutent ne comprennent pas. C'est un peu dommage. Surtout qu'il faut comprendre dans le contexte que le « il », ça se ramène à la fin du verset, à la fin du chapitre 9, donc le chapitre qui précède, et en l'occurrence, ce sont les hommes religieux, les pharisiens. Donc quand il dit « il ne comprenait pas », il faut bien comprendre que Jésus a donné cette parabole à des hommes religieux qui étaient là. Alors il nous parle de cette histoire, on va la détailler. Et puis eux-mêmes, ces hommes religieux, ils ne comprennent pas tout. On t'entend, mais on ne comprend pas. Alors, il y a quand même une chose que eux comprenaient beaucoup mieux, et tu peux passer l'image d'après s'il te plaît. Il faut se projeter il y a 2000 ans. Alors la photo est un petit peu floue, mais vous allez vite comprendre. On voit au milieu le troupeau, d'accord? C'est bon, les petits moutons, vous les voyez? Bon. Il y a des noirs, il y a des marrons, il y a des blanches. Et tout autour, là, ce que vous voyez ici, c'est un petit muret. Et donc ça, c'est l'enclos de la bergerie. Vous voyez, il n'y a pas de toit, rien du tout. Là, il y a un monsieur qui est assis sur le muret. Et j'ai mis porte entrée. En fait, il y avait un muret de quatre côtés, mais avec un passage ici. Hein, c'est un peu flou. Mais en fait, les brebis passaient par là. Et le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rentrer son troupeau. Et il s'installait ici le jour et la nuit même, il se couchait même devant. Éventuellement, on pouvait mettre quelques obstacles, mais pour être bien sûr que les brebis ne s'en aillent pas, il se couchait à la porte. D'où cette explication où Jésus dit, celui qui rentre, après le portier le laisse rentrer, etc. Parce qu'il y a un droit de passage. Et donc, on comprend mieux maintenant l'histoire. Maintenant, on va relire. En vérité, je vous le dis, celui qui entre par la porte dans la bergerie. Donc là, il est en train de dire, celui qui va prendre le vrai passage. Celui qui n'entre pas par la porte, mais qui y monte par ailleurs, c'est un voleur. Bah oui, là on comprend comment ils peuvent enjamber le muret. Et c'est surtout en circonstance de nuit. Parce qu'il faut comprendre que ces enclos qui sont faits étaient faits dans la nature. Ils n'étaient pas forcément la propriété de quelqu'un. C'était les bergers qui aménageaient ça dans la nature. Et comme ça, n'importe quel berger, lorsqu'il passait dans un coin et qu'il devait faire reposer ses brebis, surtout à l'arrivée de la nuit, alors il pouvait y avoir plusieurs bergers qui mettaient leur troupeau dedans, donc c'est pas seulement tout petit, ça pouvait être plus grand. Et donc on comprend que pendant la nuit, alors que les bergers étaient plutôt à la porte en train de veiller à ce qu'il n'y ait pas de sortie de mouton, quelques-uns pouvaient passer de l'autre côté, enjamber le muret, prendre un mouton et le passer de l'autre côté. Donc on comprend maintenant pourquoi Jésus est en train de dire que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, et là on voit qu'effectivement c'est très faisable, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par le nom, bien sûr. Elles lui appartiennent, il les connaît. Et il les conduit dehors et on comprend qu'il passe par cette porte-là. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, pourquoi est-ce qu'il parle de ses propres brebis? Parce que comme on a dit tout à l'heure, il pouvait y avoir plusieurs troupeaux qui appartenaient à plusieurs bergers. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Et ça, pour l'avoir vu, c'est incroyable. Hein. Vous pouvez les appeler, ils ne vont pas venir. Le berger, il les appelle. Tout de suite, elles viennent. Elles reconnaissent vraiment la voix de leur berger. Mais elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, on se retrouve au verset 6. Jésus leur dit cette parabole qui était quelque chose de très commun. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Tu peux mettre l'image d'après, s'il te plaît? Rappelons-nous juste de quoi il s'agit dans la parabole qu'il a parlé. Il a parlé d'une porte d'une bergerie. Il a parlé de voleurs et de brigands. Il en fait allusion. Il parle d'un berger qui appelle et des brebis qui le suivent et sous-entendu d'autres qui ne le suivent pas. On est d'accord? L'histoire, elle est là. Hein. On pourrait même se dire, s'il y a vraiment un sens derrière ces choses-là. Alors Jésus va commencer, va continuer, et c'est là que nous continuons aussi notre lecture à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Mes brebis, pardonnez-moi. Non, je reprends. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Et celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Et d'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Il fait référence justement au chapitre 9. Ah, et voilà que Jésus commence à nous donner quelques clés de compréhension. Alors tu peux mettre la diapo d'après. Jésus dit « La porte ?» C'est moi. Il va parler des voleurs et des brigands, mais il a une parole un peu énigmatique. Il dit « Ce sont ceux qui étaient avant moi. » De quoi est-ce qu'il parle là? On verra ça tout à l'heure. Il dit et il affirme que le berger qui appelle, c'est lui-même. C'est Jésus. Je suis le bon berger. Avec autant d'affirmations qu'il a pu dire, je suis la porte. Quand il parle des brebis qui l'ont suivi, il les décrit. Pardonnez-moi. Il décrit, ce sont les brebis qui entendent ma voix. Elles ne se laissent pas attirer par d'autres voix, elles entendent ma voix. Les brebis qui me suivent, ce sont celles qui entendent ma voix. Et les autres brebis, en l'occurrence, si on est en train de faire des applications à des personnes, bah, ce sont les autres. J'ai d'autres brebis ailleurs. Il y a d'autres personnes. Et puis tout à l'heure, il parlait des brebis qui étaient aussi dans la bergerie. Alors voyons maintenant, point par point. Et plus explicitement, chacun de ces points. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Et ce n'est pas une porte qui n'a pas beaucoup de valeur. Au verset 9, il est écrit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il sera sauvé. Jésus a bien conscience que si quelqu'un veut entrer dans le paradis, il n'y a pas d'autre porte que la porte de Jésus. La Bible nous dit en Actes, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pour rentrer dans un lieu, il faut passer par la porte. Pour rentrer au ciel, il faut passer par Jésus. Jésus n'a jamais donné d'autre nom. Jésus n'a jamais donné un nom de religion, ni un système, ni une manière de faire. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus. Jésus est la porte, mes bien-aimés. Si quelqu'un encore ce soir ne veut être sauvé dans sa vie, s'il veut avoir la vie éternelle, s'il veut voir une situation dans sa vie, s'il veut voir un déblocage, s'il veut voir la guérison, il doit retenir qu'un seul nom, le nom de Jésus. C'est une porte simple, c'est une porte accessible. Ce n'est pas une porte grippée. Oh non, au contraire, il y a beaucoup d'huile pour que ça tourne bien. Et Jésus dira, et le redira en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Dans cette parabole de la porte, Jésus ne veut pas seulement donner des belles images, il est vraiment en train de nous expliquer qu'il est l'unique moyen, l'unique passage, l'unique personne par lequel nous devons et pouvons être sauvés. Cette porte, mais c'est une porte de liberté. La suite du verset 9 dit « Et les brebis, si elles passent par là, elles entreront, elles sortiront. » La porte porte de Jésus, ce n'est pas une porte de religiosité, c'est une porte de liberté, de grâce. Quand on suit Jésus, on le suit non pas avec la contrainte, non pas avec une contrainte morale, non pas avec la contrainte d'un gourou, non pas avec la contrainte du qu'en dira-t-on, non pas avec la contrainte de la peur. Certains disent, ah mais vous croyez en Dieu parce que vous avez peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. Depuis qu'on a rencontré Jésus, on sait où on va, alors on est heureux. Et même avant, ce n'était pas la peur de l'enfer. D'ailleurs, on n'y croyait même pas, pas plus en l'enfer qu'au paradis. Donc ce n'est pas la peur qui nous mène. Il n'y a pas de contrainte. Jésus dit que la brebis qui me connaît et qui réalise et qui vient à moi, qui réalise que je suis la porte, elle ne sera pas prisonnière. Ce n'est pas non plus un système. Vous savez, il y a des portes, on peut rentrer et quand on veut ressortir, c'est coincé. On ne peut pas les ouvrir, on ne peut plus passer. Avec Jésus, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de piège avec Jésus. On peut rentrer, on peut sortir, on peut le choisir, on peut le rejeter. Jamais Jésus ne veut qu'on le suive comme un esclave, mais au contraire comme des hommes libres. Jacques, chapitre 1er, verset 25, quand il parle de la parole de Dieu, il parle de la loi de la liberté, bien sûr. Et ailleurs, il est écrit que là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Et Jésus nous a affranchis pour la liberté. Jésus, c'est une porte, mais pas une porte de prison, une porte de liberté. Non pas une porte cadenassée, mais une porte ouverte. Jésus veut que nous comprenions que cette porte-là, c'est la porte du ciel, c'est la porte du bonheur, c'est la porte du rassasiement, parce qu'il continue, il rentrera, il sortira et il trouvera de bons pâturages. Mais oui, de bons pâturages. La porte que Jésus représente pour nous, ce n'est pas une porte qui nous amène vers un chemin obscur, vers un chemin malheureux, vers un chemin où on se dit « Mais mince, qu'est-ce qui va encore se passer ?» Et il y a des gens comme ça, ils vivent tous les jours. Et ils se lèvent le matin et ils disent « Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui ?» Même certaines personnes, dès qu'il leur arrive quelque chose de bien, ils commencent déjà à dire « Oh là là, ça c'est pas normal, normalement moi j'ai que des mauvais coups, là s'il se passe des trucs bien, il va se passer quelque chose de mauvais. » Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Mais quand Jésus parle qu'il est la porte, il parle d'une porte de salut, il parle d'une porte de liberté, il parle d'une porte où on ne sera pas étonné de trouver des pâturages, des lieux où on peut manger, des lieux où on peut se rassasier, des lieux où on est en tranquillité. Une porte qui nous donne un avenir. Une porte qui est ouverte vers le monde. Une porte qui donne de l'espérance. Une porte qui donne de la perspective. Il est beau ce verset de Jérémie. J'ai pour toi un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas seulement Jérémie qui le dit, c'est Dieu qui le dit par Jérémie. Et ce qu'il a dit à son peuple au travers de Jérémie, alors que le peuple d'Israël traversait un moment terrible, ils étaient loin de leur territoire, le temple était détruit, ils avaient tout perdu. Et c'est dans ce cadre misérabilis que Dieu va parler par son prophète. Il dit, j'ai pour toi un avenir et de l'espérance. De l'avenir, de l'espérance. Jésus, il est cette porte. Et il le dit, celui qui passera par moi, il trouvera des pâturages. Vous serez enfin rassasiés. Vous serez enfin désaltérés. En Hébreux, chapitre 12, verset 1, Paul dit, rejetons tout le fardeau. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons sur cette piste qui est tracée devant nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Paul avait cette vision. J'ai une pente qui est ouverte devant vous. Courez, foncez. C'est le péché qui vous alourdit. C'est la misère de ce monde qui vous étrangle. Mais vous, qui entendez parler de Jésus, fixez les yeux sur lui et voyez comme le monde est devant vous, voyez comme l'espérance est devant vous. Courez donc, hardiesse, car il y a quelque chose de bon qui se trouve devant nous. Amen. Jésus est la porte qui sauve. Alors, il nous est parlé justement que c'est une porte d'une bergerie. Je vous ai déjà marqué que Jésus, là, je pense qu'il se sert de l'image de la bergerie pour parler du cadre religieux. la religion doit être une bonne chose, vous savez. Normalement, la religion doit servir aux hommes à connaître Dieu. Normalement, au travers d'une religion, les hommes doivent rencontrer Dieu. Normalement, au travers d'une religion, ils apprennent à avoir une relation avec lui. La religion sert à ça. La religion doit amener les hommes à avoir le pardon de leurs péchés, une communion avec Dieu. Ils doivent trouver le salut, la guérison. La religion doit transformer la vie. Et beaucoup de gens se disent, mais s'il y avait un Dieu, il devrait faire ceci. Mais oui, mais c'est vrai. Pour ceux qui ont rencontré Jésus, ils s'aperçoivent que tout est possible à celui qui croit. Et que véritablement, Jésus est venu dans notre vie comme un sauveur, un libérateur. Certains se disent, mais s'il y avait une religion, ça serait. Si Dieu existerait, ça serait. Et normalement, effectivement, tous ceux qui ont une religion devraient être convaincus d'avoir une relation avec lui. Pourtant, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Nombreux sont des gens qui se revendiquent d'une religion, avec des règles. Et là, je voudrais prendre un peu l'image des murs, avec des règles, des cadres. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Il y a une législation. Il faut respecter certaines consignes. Mais sans jamais avoir une vraie relation avec Dieu. Et Jacques, chapitre 1, verset 26, dit « Si quelqu'un croit être religieux, si quelqu'un croit qu'il a une bonne religion et qu'il est attaché à sa religion, si quelqu'un croit être religieux, mais sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, elle sert à rien. » Tu dis que tu as une religion ? T'es fier de ta religion ? Et pourtant, tu te trompes toi-même. Tu te mens à toi-même. Et même ta bouche montre combien tu es capable d'être méchant, de toucher. Tu n'es pas capable de la tenir en bride. Tu n'es pas capable de maîtriser ton être tout entier. Par ta langue, tu fais des choses qui désavouent ce que tu prétends connaître. Mais elle continue. Mais la religion pure et sans tache devant Dieu, sous-entendu, ce qui est agréable à Dieu, la religion qui plaît à Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jésus est en train de dire, il y a des sortes de formalisme religieux qui fait qu'on peut être dans notre cadre, dans notre bergerie, et on se croit bien. Mais la vraie religion ne nous fait pas seulement rester dans la bergerie, elle nous fait aller au-devant des affligés, au-devant des veuves, au-devant des orphelins. La vraie religion, ce n'est pas de s'enfermer dans un local. La vraie religion, ce n'est pas de rester dans nos murs. La vraie religion, ce n'est pas de rester prisonnier derrière une porte avec des murs. La vraie religion, ce n'est pas d'être sous la surveillance de quelqu'un. La vraie religion, c'est celle qui effectivement nous fait rentrer dans la bergerie, mais pour en ressortir, pour apporter consolation, pour apporter l'amour. C'est ça la vraie religion qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est quand le cœur est tellement pétri de la grâce qu'il la communique tout autour. Sinon, cette religion, elle sert à quoi? Si ce n'est fait que pour rester dans notre petite bergerie, prisonnier, derrière notre porte, avec un gardien dehors, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis, elles rentrent, elles sortent. Elles sont libres. Elles viennent dans la bergerie pour se faire soigner, pour être protégées des loups pendant la nuit. Mais elles sortent, elles vont vers le monde, elles communiquent la grâce. Elles sont libres, mais elles ont aussi cette mission d'aller vers le monde. Les cadres religieux peuvent être mauvais. Et c'est pour ça qu'il dira d'ailleurs, en parlant des voleurs et des brigands, ce sont ceux qui étaient avant moi. Mais qui étaient ceux qui parlaient de Dieu avant Jésus? Ben, c'était les hommes religieux. C'est eux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui enseignaient le peuple. Il faut faire ceci, il faut faire cela, et Dieu a dit, il est écrit. Alors il faut des gens comme ça. Il en faut. Mais à cette époque, Jésus avait beaucoup de reproches à faire à ces hommes religieux. Comme on l'a dit, on est complètement dans le cadre. Parce qu'à la fin du chapitre 9, il parle à des hommes religieux. Il leur donne cette parabole parce qu'il sait que c'est eux qui entendent. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas trop ce qu'ils veulent dire. Mais une fois qu'il a donné l'explication, vous avez vu comme ils sont en colère. Il est fou! Il est fou, on ne veut plus l'entendre celui-là! Parce qu'il commence à réaliser que quand il parlait des voleurs et des brigands, c'est de eux dont il parlait. Vous lirez à la maison tout le chapitre 23. Moi, je vous ai fait juste un extrait. Mais le réquisitoire de Jésus est plus long. Je vous lis ce que j'ai relevé. Matthieu 23, verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Parlant des hommes religieux. « Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils vous attachent des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes. « Rabbi, Rabbi, Maître, Maître !» Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ou ne vous faites pas appeler Maître, car vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Vous entendez, vous fermez la porte. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez, rendez-vous compte, vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, bref, vous faites toutes vos offrandes. Mais vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comment ça? Les hommes religieux ont tué les prophètes? Mais oui, Jérusalem, Jérusalem. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Jésus est sévère avec les religieux de l'époque. Et c'est pour ça qu'il est défini comme étant des voleurs et des brigands. Et au verset 10 et au verset 12, il emploie ces mots-là. Ils dérobent, ils égorgent, ils détruisent, ils abandonnent les brebis. Ce sont des gens qui prétendent parler au nom de Dieu, mais leur cœur est égoïste. Il les compare, alors je ne sais pas si aujourd'hui on en parle beaucoup, encore des mercenaires. Qu'est-ce que c'est qu'un mercenaire? Mais ça décrit très bien la mentalité de ces hommes religieux. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui ne travaille que pour le salaire. Il ne s'intéresse pas, il ne s'intéresse à rien d'autre qu'au profit. Qu'importe si son travail est bien ou mal fait, il s'en fiche. Et en l'occurrence, ces hommes religieux de l'époque qui auraient dû prendre soin des hommes, qui auraient dû enseigner la parole pour le bien-être des gens, qu'importe, ce n'était pas du tout leur souci, ils travaillaient dans le seul but de s'en mettre plein le ventre, plein les poches, d'être bien vu, d'être estimé, d'être valorisé. Et Jésus va être dur, sévère, vous êtes des voleurs, vous êtes des brigands. Et ces pauvres âmes, ici on replace dans le contexte, et c'est pour ça que l'image est belle, et ces pauvres gens qui sont comme dans votre bergerie, mais vous les tuez, vous les détruisez. Vous êtes les responsables de ce cadre religieux, mais à cause de vous, ils ne rentrent pas dans le paradis, c'est ce qu'il a dit. À cause de vous, non seulement vous n'êtes pas sauvés, mais vous empêchez les gens de rentrer dans le paradis. Et on comprend pourquoi Jésus a employé ces mots sévères, ce sont des voleurs et des brigands. Ils passent par une autre porte, ils essayent là de paraître au milieu de vous, mais ce sont des menteurs. Jésus dit « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. » Il le dit au verset 11, au verset 12, au verset 14. Et quand Jésus dit « Je suis le bon berger », bien sûr, il évoque, il donne le sens de la parabole où il parle de brebis, il parle de berger, il parle de porte, il parle de bergerie. Alors, le peuple comprend que dans cette parabole, quand il dit « Je suis le bon berger », il dit « Ah d'accord, c'est... dans l'histoire, dans la parabole, c'est toi. » Mais dans la conscience des gens qui écoutaient. Cela faisait référence à un autre passage qui certainement est déjà en train de venir à l'esprit de quelques-uns. Parce que les Juifs de l'époque connaissaient très bien leur Bible. Et il y avait un psaume, le psaume 23, où il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tout est dit. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », ceux qui connaissaient, ils étaient nombreux à l'époque, ceux qui connaissaient les psaumes et ceux qui connaissaient parfaitement le psaume 23. Parce que dites-vous bien qu'à l'époque, ce que nous on appelle les psaumes et qu'on lit comme ça, les gens les chantaient. Ils chantaient les psaumes. Donc ils les connaissaient par cœur, ces poèmes. Et quand Jésus dit « Je suis le bon berger », tout de suite les gens y pensent à cette chanson. Ah, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer, il me dirige, il prend soin, il restaure. Et quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il est en train de dire « Vous voyez ce psaume, c'est moi qui peux l'accomplir dans votre vie. Si vous venez à moi, je serai ce berger qui prendra soin de vous. » Il y a bien sûr d'autres références, si vous voulez, à la maison, vous pouvez aussi lire Ézéchiel chapitre 34. Il est opposé les mauvais bergers et les bons bergers. Et évidemment, l'Éternel est le bon berger. Jésus est ce bon berger. Il marche devant nous. Lui seul est capable de nous conduire. Lui seul est celui qui peut dire « Tu ne manqueras de rien !» Les hommes politiques ont toujours des discours comme ça. « Vous inquiétez pas, je prendrai soin de votre situation. Je suis le président de votre condition. Je suis comme vous !» Et une fois qu'ils sont à leur place, ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'ils ne sont pas Dieu, tout simplement. Mais Jésus a dit « Je suis l'Éternel, je suis le bon berger. » Et le psalmiste dit « Je ne manquerai de rien parce que je te choisis comme berger. Tu me fais reposer, tu me diriges. La paix est auprès de toi, les eaux paisibles sont dans ta direction. Tu restaures mon âme, tu la guéris. Et combien est-ce qu'il y a besoin de guérison au-dedans des âmes ? Combien il y a besoin de restauration au-dedans ? Combien il y a besoin de guérison intérieure ? Combien il y a besoin que le passé soit effacé, gommé ? Combien il y a besoin qu'il y ait un baume invisible ? Parce que les psychologues, ils peuvent bien nous expliquer d'où vient notre problème, mais ils ne peuvent pas le loter, ils ne peuvent pas le guérir. Mais Dieu qui nous a créés nous guérit de l'extérieur, il nous guérit de l'intérieur. Amen. Lui seul est capable de guérir ses failles. Lui seul est capable de ressouder ce qui est cassé dans l'homme, cassé dans la femme. Lui seul est capable de faire cette merveille parce que c'est spirituel que Dieu agit. L'Éternel est celui qui nous conduit dans la justice, dans la droiture. Lui seul est capable de retirer les craintes. Je ne crains aucun mal. Oh, ça c'est prétentieux, monsieur le pasteur. Comment ? Vous n'avez jamais peur ? On peut avoir peur, mais le Seigneur nous rassure. Amen. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la peur vient du diable, mais le salut vient du Seigneur. Amen. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous rassure. Ne crains pas. Mets ta faible main dans la main tout-puissante de ton Dieu. Et c'est lui, c'est Jésus le bon berger. Cherchez pas ailleurs, cherchez pas dans les gouvernements, ne cherchez pas dans les pasteurs humains. chercher Jésus lui-même. Lui seul est capable de retirer les craintes. Lui seul est celui qui nous rassure. Lui seul est celui qui, dans la vallée de l'ombre de la mort, est capable d'y voir clair pour savoir par quel chemin passer pour nous en sortir. Lui seul est celui qui est capable de vous donner tous les jours de votre vie le bonheur et la grâce. Ça paraît complètement fou. Il dit, mais attends, là vous déraisonnez, vous prêchez l'évangile, c'est bien. Oh, Jésus mort à la croix, d'accord. Mais quand même, la grâce, le bonheur tous les jours. Oh, on vit sur terre, oui ou non? Oui, on vit sur terre. Mais c'est le ciel qui est venu jusqu'à nous, amen. Et par le Saint-Esprit, il est capable de venir habiter dans nos cœurs, alléluia. Alors, bien sûr, ce n'est pas donné à tous. Il n'y a que ceux qui suivent la voie du bon berger. Jésus le dit bien, que ce bon berger, il rentre dans la bergerie, il appelle, il les appelle. Il ne nous est pas dit qu'il commence à fouetter ceux qui ne veulent pas venir. Il n'est pas dit qu'il les tire là par la patte arrière. C'est pas un cow-boy, il n'est pas là avec son lasso, hop. Jésus appelle. Il interpelle. Il précise bien même que lui les connaît, ses brebis. Et même il est capable de les appeler par leur nom. Quelle délicatesse. Et Dieu, quand il nous parle, c'est toujours de manière si personnelle. Toujours, toujours. Tous les témoignages que l'on entend, de voir comment on a été touché par le Seigneur, il y a toujours une petite part de pudeur parce que on a l'impression que notre expérience à nous, ça ne peut pas intéresser les autres parce que nous, ça s'est passé comme ça et le Seigneur, c'est comme s'il savait exactement ce qui pouvait nous toucher à nous personnellement. Mais bien sûr, parce que ça, c'est la délicatesse du Seigneur. Il nous connaît si parfaitement. Et il nous appelle. Et il nous interpelle. Il faut entendre. Je crois qu'il y a un dicton populaire qui dit qu'il n'y a rien de pire que ceux qui ne veulent pas entendre. Ils entendent bien, mais comme ils n'ont pas envie d'entendre, c'est pas le problème de l'intonation. C'est le problème que la personne ne veut absolument pas entendre. Et malheureusement, combien de gens entendent, sont interpellés par les signes, par le hasard, par les circonstances, comme il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme n'y prend pas garde. Et il y a des gens, non seulement ils n'y prennent pas garde, mais ils ne veulent même pas prendre garde. Attention, si jamais un jour ils pourraient se convertir. Pourtant, c'est la meilleure des choses. Pourquoi ne pas se laisser faire? Pourquoi entendre une chose et refuser de mettre en pratique? Pourquoi? Pourquoi? Tu entends? Tu comprends, tu écoutes, mais tu refuses de suivre, tu refuses de sortir avec Jésus, tu refuses d'être comme cette brebis qui est avec Jésus et qui le suit humblement, simplement. Pourtant, il n'y a rien à perdre. Au verset 10, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. » Qu'elle l'ait en abondance. Ce que le Seigneur veut donner, ce n'est pas que nous restions croupis dans une petite bergerie. Ce que le Seigneur veut nous donner, c'est une vie abondante, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie rafraîchissante, une vie qui a de la consistance. Une vie où on peut chaque jour regarder en arrière et se dire « Ah, merci Seigneur, parce que j'ai encore appris des choses avec toi. Merci Seigneur, parce que tu m'as aidé dans ce message-là. Merci Seigneur, parce que j'ai encore appris, parce que je me suis fortifié en toi. Peut-être que c'était difficile, mais avec toi, tu as donné un sens à toutes ces choses-là. » C'est ça, suivre Jésus. C'est ça, avancer avec Jésus. Une vie en abondance, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Quelle grâce de lui appartenir, quelle grâce mes bien-aimés, quelle grâce amis. Rien sur cette terre ne pourra égaler ce privilège d'appartenir à ce bon berger. Vous l'avez lu, les mercenaires, eux, dès qu'il y a un loup, dès qu'il y a un danger, ils s'en vont. ils ne prennent pas soin.
Mais le berger dont on est en train de vous parler là, il a prouvé sa fidélité, il a prouvé son amour en mourant à la croix pour nous. Quand on y réfléchit, c'est... D'ailleurs, c'est complètement fou.
Parce que si on est d'accord pour dire qu'un bon berger, c'est un berger qui prend soin des brebis, il les soigne, il prend soin d'eux. D'accord, mais n'empêche que la finalité, c'est pour leur piquer la laine et finir par les manger. Hein. Bah oui. C'est un bon berger, évidemment, il va prendre soin, mais la finalité, c'est que la brebis, elle finira dans l'assiette. C'est par intérêt qu'on a un troupeau. Mais Jésus, c'est complètement l'inverse. Il nous dit qu'il a un troupeau et qu'il s'est exposé, qu'il a donné sa vie pour ses brebis. C'est lui qui est allé à l'abattoir. C'est lui qui s'est donné entièrement. C'est lui qui s'est dépouillé. C'est lui qu'on a blessé. C'est lui qu'on a tué pour les brebis. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Tuer le berger pour les brebis, ça n'existe pas. Et Jésus, il a cette folie-là. On mérite l'enfer, on mérite d'être jugé. Mais le berger dont on est en train de parler, il nous aime tellement qu'il a dit, je sais qu'elle mérite, mais moi je veux qu'elle ait la vie en abondance. Et pour cela, je veux qu'il n'y ait rien qui gâche cette vie. Je veux qu'elle vive en pleinement. Je veux qu'elle vive éternellement. Et s'il faut que je meure pour mes brebis, je mourrai pour mes brebis. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a accepté, lui le berger, non pas de dominer sur ses brebis, mais de mourir pour ses brebis. Afin de donner une suite à ses brebis. Afin qu'elles vivent complètement, pleinement, avec cette abondance. Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Ne soyons pas comme ces autres brebis qui entendent et qui n'ont pas voulu suivre, qui entendent mais qui se laissent encore manipuler, influencer par ces brigands et par ces voleurs. Ne vous laissez pas envahir par tous ces gens qui chercheraient encore à vous détruire, à vous pouiller. Ne restez pas dans cette bergerie, dans l'étroitesse de vos pensées, de vos logiques. Acceptez de sortir. Ne soyez pas comme ces autres brebis, inconnus, qui sont égarés. Sachez quand même que Jésus pense à vous. Un jour, Jésus voyait la foule. La Bible nous dit qu'il fut ému de compassion, parce qu'il voyait sous ses yeux comme des brebis qui étaient sans berger. Et vous savez, c'est terrible une brebis qui n'a pas de berger. Parce que si elle n'a pas de berger, c'est vrai qu'elle n'a pas de troupeau. Et une brebis loin du troupeau, ça ne dure pas très longtemps. Il y a des rapaces pour veiller sur elle. Il y a des loups pour veiller sur elle. Il y aura des voleurs pour s'occuper d'elle. Et Jésus, quand il voit un bon nombre d'hommes et de femmes sur cette terre, il les voit comme ça, comme des brebis errantes, sans but. Elles ne sont pas faites pour ça. Une brebis n'est pas faite pour vivre seule. Elle est faite pour vivre en groupe. La présence d'un berger, elle sait que c'est pour la rassurer, pour prendre soin d'elle. Et on a besoin intimement, nous avons tous besoin de ça. Nous avons tous besoin d'une relation au Sauveur. On a tous besoin que cet être supérieur puisse remplir notre cœur. Intimement, on a tous besoin de cette sécurité éternelle. On a tous besoin d'être encore comme cet enfant dans les mains du papa. On a tous besoin d'une vie abondante. On a tous besoin d'être rassurés. On a tous besoin. C'est pas une question de fort de caractère ou non. C'est un besoin viscéral. Nous sommes spirituels. Et tous, on a besoin de connecter avec cet être supérieur que nous appelons Dieu et qui est révélé en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de faire partie du troupeau de Jésus. Comprenez bien que appartenir au troupeau de Dieu, ça ne veut pas dire être un mouton. Ça veut pas dire suivre bêtement, non. Faire partie du troupeau, c'est tout simplement accepter de se laisser conduire par Jésus. C'est accepter de faire partie de l'Église. Quand Jésus parle, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Il est en train de parler de l'Église et de Jésus.
Il n'est pas en train de parler d'institutions, il n'est pas en train de parler de gourous, il n'est pas en train de parler de sectes, il n'est pas en train de parler de systèmes religieux. Il est en train de parler qu'il y aura un seul cœur, un même peuple, éparpillé sur toute la surface de la terre, quelle que soit la dénomination. Mais ce qui importe, c'est d'être en relation avec le berger des bergers. Retenons ces 5 étapes. La première, ne fermons pas notre cœur à la voix du bon berger. Ne fermons pas notre cœur. Jésus vient dans ce monde, comme il le dit, comme un berger qui rentre dans la bergerie, il appelle. Soyons pas de ceux qui ferment leur cœur, qui résistent à Dieu. Seigneur, j'entends ta voix, mais je fais comme si ça ne m'intéressait pas. J'entends ta voix, mais je fais comme si je ne comprenais pas ce que tu attendais de moi. Je fais comme... Je t'entends, bien sûr, mais ce n'est pas dans ma volonté de t'obéir. Vous vous trompez vous-même. Deuxième point, choisissez Jésus comme berger. Choisissez Jésus comme berger. Il est la porte qui mène au salut. Il est le bon berger qui peut prendre soin de vous. Mais il faut le choisir. À un moment dans son cœur, il ne faut pas seulement faire une comparaison, mais il faut choisir. À un moment, il faut dire, Seigneur, j'accepte, sois mon berger, d'accord. Je décide de t'appartenir. Je décide maintenant de ne plus être, de vivre ma vie comme bon me semble, mais j'accepte que ce soit toi qui dirige ma vie. Acceptez de sortir de votre bergerie, c'est ce que Jésus a dit. Il les appelle, il les fait sortir de la bergerie. Jésus nous fait sortir de nos habitudes, il nous fait sortir de nos carcans, il nous fait sortir de nos impasses, il nous fait sortir de notre manière de réfléchir, il nous fait sortir de nos habitudes, il nous fait sortir de nos repères. Oh, ça on n'aime pas, et plus on vieillit, et moins on aime ça. Là, les enfants sont et les adolescents, ils aiment beaucoup. Ah, si on sort, c'est bien, on voit quelque chose d'autre, oh, vivement qu'on aille en vacances, oui. Mais plus on vieillit et plus les gens ils se cramponnent à leurs quelques repères. Ah non, faut surtout pas déplacer le meuble. Faut surtout pas changer de couleur. Oh, faut surtout pas changer la chaise. Oh ben non, s'il te plaît, pas ça depuis le temps, tu sais, c'est un souvenir. Mais il faut que nous acceptions de sortir de nos bergeries, sortir de nos repères, sortir de nos quatre murs, sortir de notre religiosité, sortir de nos acquis. Sortir de nos prisons. La quatrième étape. Laissons-nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. La vie avec Jésus n'est pas une émotion, c'est un chemin. Ce n'est pas une décision faite sur le coup de cœur, mais c'est un vrai marathon. La vie avec le Seigneur, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. C'est les mois à venir, c'est les années à venir. Si Dieu vous prête autant de jours à vivre d'ailleurs. Ah oui, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Seigneur, merci parce que tu m'as touché ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu... Ah, là, j'ai vraiment senti que c'était ça, mais... Mais acceptez le chemin. Acceptez de passer par là où le Seigneur vous demande de passer. Oh, bah oui, parce qu'il y a des fois, on veut bien suivre le Seigneur pour les pâturages. Ah oui, ça, on veut bien les courants d'eau. Oh, les eaux paisibles, oh, Seigneur, t'es merveilleux. Mais dans le psaume 23, en plein milieu de ce psaume, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de... Bah, Seigneur Jésus, bah, t'es mon berger. Et tu me fais passer par la vallée de l'ombre de la mort, il reste toujours le berger. Et oui, et le Seigneur nous fait passer par des vallées de l'ombre de la mort. Le Seigneur nous fait passer par des situations de peur, d'angoisse. Mais ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est sa promesse. Même dans les moments difficiles, je serai là. Et il y en a. Ils veulent bien de Jésus pour les pâturages. Ils veulent bien de Jésus pour les miracles. Ils veulent bien de Jésus qui encourage, qui bénit. Mais ils ne veulent plus du Jésus qui nous emmène dans des situations difficiles et douloureuses. Pourtant, Dieu sait pourquoi il les fait venir par là. Et on verra ça une autre fois. Mais accepter Jésus comme son berger, oui. Mais accepter aussi son chemin. Accepter de passer là où le Seigneur nous demande de passer aujourd'hui. Certains sont toujours en calcul avec Dieu. Oh, je ferai ça si.
Tu fais ça. Oh Seigneur, je ferai ça si tu m'exauces. Oh Seigneur, je fais pas ça maintenant parce que t'as intérêt, toi, à faire ça. Mais non.
Le chameau des brebis, c'est lui le berger. C'est lui qui marche devant.
Seigneur, j'accepte de renoncer à ma vie pour prendre ton chemin. Demande-moi ce que tu veux, Seigneur. Et j'accepte. Marche devant moi. Et je m'engage à te suivre.
Le cinquième point est le dernier. Je dirais accepter de vous joindre au troupeau de Jésus. Ne soyons pas des indépendantistes. Par expérience pastorale, je pourrais vous dire que toutes les brebis qui quittent le troupeau, toutes celles qui décident de dire « Oh, moi je fais ma vie tout seul », finissent par être mangées par le loup. Ou tomber dans des trous, ou être perdu dans la nuit. Suivre le troupeau, ça, c'est accepter de faire partie de l'Église, d'être corps avec les frères, avec les sœurs. Non pas pour perdre notre personnalité, bien sûr que non, voilà. Il y en a des... Vous êtes dans un troupeau, il y a toutes les personnalités, on les voit, les caractères des brebis. Hein. Elles ne perdent pas leur caractère. Mais elles savent qu'ensemble, elles sont plus fortes. Ensemble, elles sont en sécurité. Ensemble, ça crée une force. Il n'y a pas de berger sans troupeau, n'est-ce pas? En fait, ça n'a pas de sens. Imagine que je suis berger. Ah, t'as combien de brebis? Oh, j'en ai une. Non, t'es pas berger, t'es un animal de domestique qui s'appelle mouton. Mais c'est pas ça, être berger. Pour être berger, il faut un troupeau. Jésus est le bon berger, donc il y a un troupeau. Nous voulons être cette brebis du Seigneur, il faut faire partie, il faut accepter de faire corps avec le troupeau. Non pas pour nous noyer, comme les moutons de Panurge qui sautaient de la falaise, mais pour faire corps avec le Seigneur, pour honorer le troupeau du Seigneur, pour honorer le berger, pour être dans la sécurité de ce troupeau, pour bénéficier de la chaleur des uns et des autres. Pour pouvoir soutenir ceux qui sont sur les côtés, sur les bas-côtés, et les encourager à suivre, pour être également encouragés par les autres. Le Seigneur nous aide tous ce soir à intégrer la bergerie du Seigneur. Amen. On rentre, on sort, mais l'essentiel c'est que ce soit toujours le bon berger qui soit devant nous. Amen.